Radio S. Bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme? Alors notre âme, j'imagine qu'elle est déchirée. En tout cas, certainement, comme moi, vous souffrez de tous ces conflits qui tiraillent le monde, hein, et la violence dans laquelle nous sommes plongés, hein, par les informations, notamment. Alors peut-être qu'il faut à la fois s'intéresser au monde, beaucoup prier pour lui, appeler les uns et les autres à la prière. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais le 7 octobre, c'était le jour de la victoire de Lépante, hein, le jour de Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame des Victoires. Et c'est ce jour-là que les terroristes ont choisi, hein, pour commettre des exactions épouvantables. Je ne sais pas si c'est une ironie du démon, mais en tout cas, l'appel à la prière est vraiment pressant. Hein. Et nous, à notre niveau, ce n'est pas tellement dans le commentaire ou dans l'analyse, aussi subtile soit-elle, hein, que nous ferons avancer les choses, mais vraiment en priant. En priant pour que des acteurs de la paix, pour que des charités invisibles puissent exister au milieu de toute cette horreur et que ceux qui sont éprouvés par ces guerres, hein, puissent être réconfortés et puis qu'il y ait des acteurs géniaux comme l'histoire en a compté, hein, au milieu des conflits les plus importants pour faire avancer la justice et le règne de Dieu, hein, et non pas le règne du démon. Voilà, je voudrais avec vous commencer à contempler le mystère de Jésus et son rapport aux enfants. Alors évidemment, il y a beaucoup de topo, hein, sur l'esprit d'enfance, la voix d'enfance chez Thérèse de Lisieux. Mais il m'a semblé intéressant de regarder à frais nouveau comment Jésus parle des enfants, quel est son rapport aux enfants. Et j'ai remarqué que il y avait quatre grands textes où Jésus parle des enfants. Et parmi ces quatre grands textes, au fond, on peut les classer en deux catégories. Il y a trois grands passages où Jésus en parle de manière positive, et puis il y a un passage où Jésus parle des enfants de manière négative. Vous savez, c'est quand il parle de la manière dont cette génération l'accueille. Hein. Elle ressemble, dit-il, à des gamins qui jouent sur des places. D'ailleurs, la traduction, hein, n'utilise pas le mot enfant, utilise le mot gamin pour montrer que c'est une vision péjorative de l'enfant comme quelqu'un de versatile, hein, comme quelqu'un d'immature qui joue sur des places. Alors, ça fait appel à un jeu de flûte et de danse, hein. Mais toujours est-il que cette génération est comparée à des enfants à cause de sa versatilité, à cause de son immaturité. Et vous vous souvenez qu'il développe en disant que cette génération critique les disciples de Jean-Baptiste, hein, en disant qu'ils sont fous. Hein. Et puis il critique Jésus parce qu'il est un glouton et un ivrogne. Hein. Bon, et à chaque fois, on critique soit l'austérité pour les disciples de Jean-Baptiste, soit au contraire, le fait qu'il mange à la table des pêcheurs pour Jésus. Donc ça, c'est cette première série de textes qui peut nous faire comprendre d'abord que quand Jésus va parler des enfants, il n'est pas dupe. Il n'est pas, il n'a pas un regard naïf, hein, sur l'enfant, comme s'il n'en avait jamais rencontré, ou comme s'il n'en avait jamais eu, hein, ou comme s'il était le vieil oncle, hein, qui ne voit les enfants qu'à certains moments de leur journée, de leur existence, bien sûr, les enfants, on va le voir, sont touchants et Jésus va mettre en avant hein, l'enfance, qu'il va pas toujours la critiquer, la rejeter. Mais nous savons aussi par ailleurs que les enfants, ils sont en croissance hein, et il faut les éduquer. Parce que ils ont des attitudes, ils sont tout à fait excusables évidemment pour ces attitudes, hein. Mais enfin il faut quand même les éduquer, c'est-à-dire il faut les reprendre parce que il peut y avoir une forme d'égocentrisme par exemple hein, chez l'enfant qui a du mal à dire merci, ou qui a du mal à dire bonjour, qui peut parfois en groupe, hein, quand il est en groupe, quand il est avec d'autres enfants. Devenir très méchant, avoir du mal à s'abstraire hein, de l'ambiance du groupe. Donc il n'est pas encore un homme libre qui réfléchit pleinement. Et il est soumis, évidemment, plus que l'adulte encore, aux passions versatiles. Hein, et il n'a pas encore une immense maîtrise de lui-même. Hein. C'est bien pour ça, d'ailleurs, hein, qu'on l'éduque. Donc toujours est-il que, vous voyez, Jésus n'a pas un regard... siropeux, doucereux, naïf hein, sur l'enfance. Pourtant, il y a, contrairement à d'autres grands textes littéraires, par rapport à d'autres mythes, hein, il va mettre en avant l'enfant comme figure du disciple hein, et comme figure même du plus grand hein, dans le royaume des cieux. Plus grand même que Jean-Baptiste, qui est pourtant le plus grand des enfants des hommes. Et on va voir que, j'allais dire, ça c'est tout à fait original, et c'est tout à fait original dans la civilisation chrétienne, hein, que de mettre à ce point en avant hein, l'enfant. On va voir pourquoi. En tout cas, on va lire les textes, plutôt que on va se pencher sur cette autre série de textes, hein, où Jésus présente l'enfant comme une figure positive hein, et même comme une figure à imiter. Hein. Alors sur ces trois grandes séries de textes positifs, il y a d'abord un texte qu'on traitera en dernier, mais qui est assez peu connu au fond. Hein, d'abord parce qu'il n'est traité que dans l'évangile de Saint Matthieu. C'est au moment de l'épisode du temple. Et vous savez où ils chassent les marchands du temple. Et les autres évangélistes vont faire plusieurs passages chronologiques. Hein. Il va chasser les marchands du temple, puis après il va prêcher dans le temple, et puis ensuite il va être acclamé dans Jérusalem, hein, Hosanna au fils de David. Alors que là, ces trois moments hein, chronologiques vont être ramassés en un seul chez saint Matthieu. Et il sera question d'enfants hein, qui l'acclament, hein, qui chantent Hosanna au fils de David dans le temple justement. Donc il y a une guérison d'infirme et puis juste après, hein, il est dit qu'il y a des enfants qui l'acclament dans le temple. On verra, hein, c'est tout le thème de la louange de l'enfant hein, que nous sommes appelés à vivre. Ça, c'est la dernière série de textes. Enfin, vous voyez, c'est pas une série, c'est un seul texte, et chez saint Matthieu. Ensuite, il y a deux grandes séries de textes qui ont pas le même contexte. Il y a un premier contexte où les disciples ont un débat entre eux pour savoir qui est le plus grand. Et c'est à ce moment-là hein, que Jésus va prendre un enfant au milieu d'eux et il va dire, voyez cet enfant, eh ben, il est le plus grand, c'est lui le plus grand. Et si vous ne redevenez pas comme ces enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et donc il va prendre la figure de l'enfant pour leur montrer quel type de disciple il veut. Bon, donc on va voir ça, on va analyser cette grande série de textes. Il y en a trois, évidemment, puisqu'on est dans les synoptiques, donc dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu. Hein, c'est dans l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, au chapitre 18, versets 1 à 5, hein, que l'enseignement de Jésus est le plus développé. C'est à cette occasion, par exemple, hein, qu'il va parler du scandale. Hein, vous savez, celui par qui le scandale arrive. Hein, mieux vaudrait pour lui, celui qui scandalise un de ses petits, hein, mieux vaudrait pour lui, hein, qu'on lui mette une meule, hein, qu'on le jette dans la mer. Ensuite, il y a une deuxième série de textes, donc toujours en Marc, en Luc, en Matthieu, mais beaucoup plus tard. Pour Matthieu, c'est chapitre 19, donc un chapitre plus tard. Pour Luc, c'est chapitre 18, alors que le débat sur le plus grand était au chapitre 9. Hein. Peu importe, mais ici, c'est un autre contexte. C'est que on apporte des enfants à Jésus pour qu'il les guérisse, hein, pour qu'il leur impose les mains. Et les disciples, vous vous souvenez, hein, rabrouent les enfants. Et Jésus dit non, ne les empêchez pas. Bon, là, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent, encore une fois. Donc, même enseignement. Mais ici, Jésus va accueillir les enfants et il va leur imposer les mains. Et il va montrer une forme de tendresse, d'ailleurs, avec ses enfants, puisque... il va les prendre sur les genoux, hein, et va les embrasser. Il va les bénir et les embrasser. Ce qui montre chez Jésus, il n'y a pas cette dureté que pourrait avoir le célibataire endurci, frustré de pas avoir d'enfant, et qui se trouve avec l'enfant démuni. Et qui du coup ne sait pas comment agir et refuse même la tendresse au fond que ses enfants appellent. Alors que on voit chez Jésus un grand équilibre à propos des enfants. Vous voyez, en même temps il les regarde en adultes en disant ben, les enfants vous êtes encore que des enfants. Hein. D'où la parabole des enfants de cette génération qui joue sur la place, qui ressemble à des enfants qui jouent sur la place. Et en même temps, il a un regard d'adulte qui accueille avec tendresse les enfants, sans dureté excessive ou sans complaisance d'ailleurs excessive non plus. Il y a un bel équilibre, hein, dans la figure affective de Jésus. Où Jésus accueille les enfants, c'est très important de voir que ici l'enfant ne sert pas simplement comme parabole, hein, mais c'est l'enfant comme enfant. Jésus va les traiter avec tendresse, hein, et il ne va pas leur refuser ce qu'il donne à d'autres, hein, c'est-à-dire aux infirmes ou à tous ceux qui lui demandent un signe, hein, si c'est demandé avec foi et humilité, hein, il va leur accorder. Là aussi, il accorde aux enfants, j'allais dire son sacrement, hein, ses sacrements, et en tout cas son enseignement, sa geste divine. Il n'attend pas que ses enfants soient adultes pour leur accorder sa grâce. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en effet la foi c'est un acte libre, et donc pour que ce soit un acte libre il faut que ce soit l'acte d'un adulte, en tout cas de quelqu'un qui a des raisonnements d'adulte, alors qu'ici Jésus, hein, accueille les enfants. C'est très important, très important par exemple pour le baptême, hein, c'est pour ça qu'on a souvent ces textes pour le baptême. Donc vous voyez quatre séries de textes avec des contextes différents. Première série de textes, débat sur le plus grand, parabole de l'enfant. On va les voir juste après la pause. Deuxième série de textes, Jésus accueille les enfants, que les disciples pourtant rabrouent. Troisième série de textes, qui n'en est qu'un seul, dans l'évangile de Matthieu, où Jésus va à Jérusalem, c'est le jour des rameaux, hein, où il rencontre des infirmes dans le temple, hein, et au moment de les guérir, hein, des enfants se mettent à chanter, hein, Hosanna au fils de David. Et puis quatrième série de textes, on en a parlé, cet enseignement, hein, sur la génération mauvaise et versatile qui ressemble à des gamins qui jouent sur des places. Voilà, on fait la pause après cette longue présentation, puis on va commencer à lire la première série de textes en prenant Matthieu 18. À tout de suite. Nice pour notre émission « Comment va ton âme ?» dans cette deuxième partie. Et je voudrais méditer avec vous cette série d'émissions qui commence le rapport de Jésus et des enfants. Alors je vous ai dit qu'il y a quatre grandes séries de textes. On va lire le premier évangile, celui de Saint Matthieu, à propos des enfants. C'est le plus long. Au chapitre 18, qui commence au verset 1 hein, et qui finit au verset 14. Il y a 14 versets, on va pas tous les lire, mais le contexte est le suivant. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'il soit englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales, il est inévitable qu'arrivent les scandales, cependant malheureux celui par qui le scandale arrive. Alors évidemment, on connaît ces textes, malheureusement, j'allais dire, on les connaît parce qu'on ne les regarde plus avec les yeux de celui qui s'émerveille, ou qui cherche à savoir, ou enfin en tout cas, à savoir du nouveau, à savoir du neuf. Hein. Pourtant, c'est la meilleure manière de relire l'Évangile, c'est de se dire, tiens, si je me laissais surprendre par le texte, ou comment être surpris par le texte. Alors moi, la première façon évidemment d'avoir été surpris, c'est de me rendre compte d'abord qu'il y avait plusieurs séries de textes, et il y avait plusieurs contextes différents. Ensuite, la deuxième façon pour moi d'être surpris par ce texte, c'est que ce discours sur l'enfant finit par « Quel est votre avis ?» Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles ne s'égare, ne va pas-il laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Bon. Normalement, le texte de la brebis perdue, pour moi, il est inséré entre la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils perdu, le fils prodigue. C'est vrai, chez Saint-Luc, c'est comme ça. Mais ici, la parabole de la brebis perdue, elle est à propos du scandale des petits. Scandale qui est tel que Jésus va dire « Si ton œil pour toi est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut entrer pour toi borgne dans la vie éternelle qu'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne de feu. » Donc pour moi, évidemment, ça c'était nouveau, que la brebis perdue. Donc, c'est une première remarque, c'est que Jésus met un enfant au milieu et à ce propos, il va parler du scandale qu'on fait aux petits. À ce moment-là, il va parler de la brebis écarée et il va nous attirer notre attention sur le mépris qu'on peut avoir à l'égard des petits. Alors notez bien que ici, les petits, ce ne sont pas forcément les enfants. C'est-à-dire que l'enfant va servir de métaphore et cette figure, évidemment, elle va lui permettre de parler des petits en général. Donc les enfants, ce ne sont pas non plus les chrétiens en général, mais ce ne sont pas simplement les enfants non plus, les mômes qui ont un certain âge. Les enfants, ce sont les petits. Alors évidemment, ce ne sont pas simplement les pauvres économiquement, et on se dit c'est ceux qui ont un niveau inférieur moralement, intellectuellement ou corporellement et évidemment c'est ces petits-là que Jésus nous appelle à ne pas mépriser que Jésus nous appelle à respecter, mais en même temps il les donne comme modèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, il y a un texte qui est assez étonnant, hein, c'est que c'est dans Saint Paul, hein, où il semble que Saint Paul nous demande de ne pas scandaliser non plus les petits, hein, les faibles, les fragiles. Et vous trouverez ça dans le chapitre 14 de l'Épître aux Romains. Et il parle ici des faibles et des forts. Hein. Il dit les forts, hein, doivent éviter de juger et de mépriser les faibles en se laissant, mais en se laissant guider par la charité et l'humilité, hein, de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et qui pourtant sont des frères, pour qui le Christ est mort et qu'il aime au point de considérer comme fait à lui-même ce qui les atteint. Vous vous souvenez, hein, c'est la finale de saint Matthieu, hein, à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ici, saint Paul a exactement le même enseignement à propos des forts qui doivent respecter les faibles. Mais qui sont ces forts, hein, chez saint Paul? Ça, c'est très intéressant. Quand on lit le texte, on s'aperçoit que les forts ne sont pas ceux que l'on croit. Je veux dire par là que et les faibles ne sont pas ceux non plus qu'on croit. Quand il parle des faibles dans la foi, vous irez voir au chapitre 14, il parle de ceux qui s'abstiennent de manger des viandes. Hein. Au fond, il en parle. Les faibles dans la foi, ce sont ceux qui jeûnent, hein, qui sont capables de jeûner, qui sont capables de s'abstenir de viande, de boisson, etc. Très intéressant. C'est ceux qui eux-mêmes respectent la loi, qui sont capables de respecter la loi. Donc, pour nous, normalement, ces gens-là, ce sont les forts. Eh bien, saint Paul les appelle les faibles. Ils sont faibles, non pas de manière morale, hein, ni même de manière corporelle ou intellectuelle. Ils sont faibles dans la foi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore assez la foi chrétienne. Ils sont encore trop près de l'ancienne alliance, où vous vous souvenez, on était béni par Dieu à condition d'obéir à la loi. Et ce à condition était terrible parce que peu y arrivaient, et puis Dieu désespérait de son peuple. Et il a fallu le Christ pour apporter sa miséricorde, et non seulement sa miséricorde, mais surtout l'esprit, son esprit d'amour, pour nous rendre capables de Dieu, et que c'était pas la loi qui nous justifiait, mais la foi qui justifiait. Parce que c'est elle qui nous permettait de recevoir le Christ et les dons qu'il apportait. Et donc ceux qui sont faibles dans la foi, en fait, apparaissent forts, moralement, de manière ascétique, alors que les forts dans la foi, eh bien, ce sont ceux qui se comportent comme des faibles. C'est-à-dire qui ont conscience de leur propre pauvreté et donc qui comptent sur le secours de la grâce. Vous voyez, déjà, ça, c'est tout à fait étonnant. Hein, vous irez voir ce chapitre 14 de Romains qui est incroyable. Et donc, quand on parle du scandale fait à ces petits, c'est ceux qui sont pas capables de porter la loi dans son entièreté. Évidemment, Jésus ne pense pas, quand il parle des scandales, aux scandales comme nous en avons eu là dans l'histoire, dans l'Église, même dans le monde du sport et ou dans les familles, hein, le scandale de la pédophilie, des abus sexuels ou des abus en tout genre, hein, mais surtout des à propos des enfants, qui sont des crimes. Hein, bon, visiblement, c'est pas l'horizon de l'Antiquité. C'est pas un problème, en tout cas dans l'Antiquité, en tout cas c'est pas quelque chose qui est soulevé. Et quand Jésus parle de ce scandale auprès des petits, bien sûr, certainement, il faut englober ce scandale auprès des petits, mais c'est beaucoup plus large. Hein. Et j'allais dire, c'est presque beaucoup plus spirituel. Au fond, le scandale auprès des petits, c'est comme les pharisiens, vous souvenez, qui empêchent par leur enseignement d'entrer dans l'alliance, parce que leurs enseignements sont trop durs, ils font peser sur les gens des fardeaux qu'ils sont même pas capables eux de porter du doigt. ils ont enlevé la clé hein, de la connaissance, hein, et ceux qui voulaient entrer, hein, dit Jésus, vous les avez empêchés. Hein. Et vous êtes comme des aveugles hein, qui conduisent des aveugles, hein, et vous tombez, et vous les faites tomber dans un trou. Au fond, celui qui fait scandale, c'est celui qui fait obstacle à la parole de Dieu, comme Saint Pierre hein, fait obstacle, hein, tu me fais obstacle. Et au fond, tous ceux qui font obstacle, c'est tous ceux qui empêchent les petits d'y entrer. Hein. Alors que Jésus, il est venu justement pour la brebis égarée, hein, pour la brebis perdue. Et il est venu pour eux, il n'est pas venu pour les malades, il est venu pour les malades, pardon, il n'est pas venu pour les justes ou les bien portants, qui n'existent pas d'ailleurs, mais il y en a qui se croient justes ou qui ont un discours que pour les justes et pour les bien portants, et ceux-là, ben, en fait, ils empêchent les hommes et les femmes de bonne volonté d'entrer dans le mystère de l'Alliance, parce qu'ils ont enlevé la clé de la charité. Et voyez, quand Jésus dit mieux vaudrait pour toi rentrer borgne, hein, c'est-à-dire ou boiteux, hein, ben, il vaut mieux vivre une épreuve difficile qui nous rende boiteux et borgne et qui nous fait comprendre ce qu'est la miséricorde parce que elle se nous a permis d'épouser la misère pour ensuite pouvoir l'enseigner et la distribuer à tous. C'est ainsi que Jésus va former le cœur de ses disciples, hein, d'une part à devenir des petits, mais pour prêcher à des petits, parce que c'est ça, ils vont être envoyés comme le Christ, hein, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans ce comme, il y a tout. Hein. Or, le Christ, il a été envoyé aux brebis perdues d'Israël, aux petits, hein, à ceux qui pourraient, si vous voulez, tourner le dos à Dieu parce que l'alliance leur semble trop dure, alors que Jésus est venu nous apporter une loi de liberté, hein, une loi d'amour. Il est venu nous non seulement nous donner les commandements exigeants, mais avec eux hein, son esprit d'amour et sa miséricorde. Il est le bon pasteur. Et voilà comment les disciples doivent apprendre hein, de l'enfant et des petits à prêcher le royaume. Je vous laisse là-dessus, hein, et puis on continuera notre méditation sur Jésus et les enfants. À très bientôt.